Parmi les fléaux qui vous font souffrir, mes chers auditeurs, sans aucun doute, l'un des plus cruels est la solitude. Et c'est pour cela qu'on en parle parfois à ce micro. Il est si douloureux d'être seul, car l'homme est fait pour vivre en société, pour être lié à d'autres, pour s'épanouir dans la confiance, dans l'amitié et dans l'amour. Et voyez-vous, je crois que notre monde a rarement connu plus de solitude qu'aujourd'hui. Alors que notre société a fait des progrès énormes en tant de domaines, notamment dans la communication, il est incontestable qu'elle a plutôt reculé dans ce domaine des rapports sociaux entre les hommes. Dans notre monde d'aujourd'hui, combien de gens sont solitaires ? Autrefois, la société était composée de petits groupes de personnes qui se connaissaient, où l'on n'était vraiment jamais tout à fait seul. On était toujours connu par quelqu'un, on avait toujours de la compagnie. C'était la société du village. Mais aujourd'hui, dans nos grandes villes, dans nos villes, au milieu de notre urbanisation galopante, c'est la termitière aux termites innombrables. Et dans nos grands ensembles, parmi les milliers d'habitants qui se côtoient, combien de gens sont absolument seuls ? Vous avez sans doute, comme moi, fait l'expérience de la solitude effroyable que l'on peut connaître dans la foule du métro à Paris. L'homme d'aujourd'hui ne respecte guère ceux qui sont blessés par la vie, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont privés de compagnie et sont seuls avec eux-mêmes. Je crois vraiment que l'on peut dire que, dans notre société moderne, malheur aux délaissés, aux abandonnés, aux cœurs meurtris, aux angoissés, aux solitaires. Ils ne rencontrent que l'incompréhension des autres et parfois même le mépris. Eh bien, chers amis qui vous sentez seuls, vous qui êtes solitaires, vous qui rencontrez l'incompréhension des autres, vous qui rencontrez le mépris de ceux qui vous entourent, eh bien c'est à vous que je m'adresse, vous qui sentez en ce moment le poids de votre solitude comme un fardeau qui vous écrase. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer qui devrait être une consolation pour vous. Il existe un remède à la solitude. Alors là, je sens que vous êtes inquiet, que vous tendez l'oreille. Oui, je vais vous dire quelque chose que vous connaissez déjà. Je veux vous dire que quelqu'un pense à vous, véritablement. C'est le Christ. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. Jésus-Christ n'est pas seulement un personnage de l'histoire dont on parle au catéchisme. Il est ressuscité. Il est vivant, actuellement, aujourd'hui. Et il peut être connu personnellement. Et ça, c'est important, il peut être connu personnellement. Vous pouvez entrer en relation avec lui, une relation personnelle, comme avec une personne ordinaire. Et ce Jésus veut se révéler personnellement à vous, comme un ami. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est totalement présent avec tout homme, avec chacun de vous, chaque femme, chaque homme, chaque enfant. Vous pouvez vraiment le connaître. Alors vous me direz, oh, depuis le temps que je le prie, depuis le temps que je l'invoque pour ma maladie, pour mes soucis, pour ma solitude, rien ne se passe. Moi, monsieur, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Vous avez certainement déjà entendu cela, vous avez peut-être répondu cela à ceux qui vous parlaient de Dieu et de la religion. Savez-vous qui était ce Thomas, mes amis ? Eh bien, c'était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Il n'était pas là lorsque le Christ est apparu à ses disciples. Ceux-ci, quand ils rencontrèrent leurs compagnons, lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Et c'est à cette occasion que Thomas leur dit ces paroles devenues célèbres et symboles d'incrédulité. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Évangile de Jean au chapitre 20, versets 24-25. Mes amis, la réponse de Thomas est logique. Elle est dite avec fermeté, précision et certainement en toute sincérité. Et pourtant, notre Thomas se trompait. Jésus-Christ était bien ressuscité. Et beaucoup sont dans ce cas aujourd'hui. On en appelle à Dieu, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il va venir nous aider. Ils ne veulent croire que ce qu'ils voient ou que ce qu'ils peuvent vérifier. Si nous agissons toujours selon ce critère, notre vision du monde serait bien limitée. Ce qui nous paraît logique n'est pas forcément vrai, mes amis. La sincérité n'est pas synonyme de vérité. Et pourtant, vous savez, Thomas était sincère. Ce n'était pas un athée, et il n'était pas contre Jésus, bien au contraire. Certains passages des évangiles montrent qu'il était très dévoué à la cause de son maître, et prêt même à le défendre et à mourir pour lui. Il était incrédule. Il ne pouvait pas croire que Jésus-Christ, qu'il avait contemplé, crucifié, était maintenant ressuscité d'entre les morts. Ses amis, d'un commun accord, pouvaient bien le lui dire avec conviction, avec des détails à l'appui. Mais non, c'était impossible. Jésus ne pouvait être vivant, et pourtant, il dut reconnaître son erreur. Jésus se présenta une nouvelle fois à ses disciples, et cette fois-ci Thomas était là. Et Jésus lui parla. « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est l'évangile de Jean qui nous le rapporte au chapitre 20, versets 26 et 29. Thomas s'était trompé. En un instant, il réalisa sa folie. Maintenant, il croit. Certes, il croit devant l'évidence. Mais il a compris et il s'écrie « Mon Sauveur et mon Dieu ». La résurrection de Jésus-Christ peut nous paraître incroyable. Est-ce une raison suffisante pour la nier, mes amis ? L'apôtre Paul, lors de son passage à Athènes, s'était adressé à la foule des Athéniens groupés à l'aréopage, parmi eux de nombreux philosophes épicuriens et stoïciens l'ont écouté parler de la foi, de la repentance et proclamer que Jésus-Christ était ressuscité des morts. Acte 15, versets 30 à 34. Et beaucoup de ces gens se sont moqués de l'apôtre Paul. D'autres ont dit « on t'écoutera parler à ce sujet une nouvelle fois ». Mais quelques-uns crurent et suivirent l'apôtre Paul pour en savoir davantage. Vous, mes amis, qu'auriez-vous fait ? Que faites-vous quand on vous parle de Jésus-Christ et de sa résurrection et de son désir de vous connaître personnellement ? Voulez-vous adopter une attitude positive et ne pas nier tout de suite simplement parce que cela vous dépasse ? Voulez-vous prendre la peine de lire l'Évangile et vous rendre compte que la résurrection de Jésus est possible ? Est-ce tellement incroyable que Dieu ressuscite les morts ? N'y a-t-il pas en chacun de nous la pensée de l'infini, le besoin de l'éternité ? Alors pourquoi ce refus de la mort, cette révolte même devant la mort ? Eh bien, parce que nous n'avons pas été créés pour mourir, mais pour vivre. La mort est un accident, la mort est entrée dans le monde à cause de la désobéissance de l'homme. Le contact a été coupé avec le Créateur, l'auteur de la vie. Et c'est alors que la mort a commencé son œuvre dans le monde. Mais Jésus-Christ est venu. Il est, dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Dans Jean chapitre 11 versets 25-26. C'est la vie abondante, la vie dans sa plénitude, la vie qui domine sur la mort elle-même que Jésus-Christ est venu annoncer. Mais ce n'est pas un ensemble de preuves de la résurrection que nous voulons vous donner. Vous savez très bien qu'en fin de compte, elle ne pourrait pas vraiment vous satisfaire. Ce ne sont pas des arguments intellectuels, philosophiques, psychologiques, psychiatriques, scientifiques qui vous convaincront. De la décision jaillit la lumière, dit le proverbe. Mais ce n'est pas vrai des choses qui concernent Dieu, parce que c'est en esprit qu'on en juge. La discussion nous permettra, certes, de mieux comprendre, mais ne nous donnera pas une vraie conviction. C'est par la connaissance de Jésus-Christ, une connaissance personnelle, une relation personnelle avec le Christ, que nous trouverons la lumière. Il a dit lui-même, « Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous avez bien compris, la lumière de la vie. Cela veut dire que, par la connaissance de Jésus-Christ, avec une relation personnelle et véritable, vous voyez soudain clair dans votre vie. Vous arrivez à vous situer. Cela ne vient pas d'une démonstration de l'intelligence, mais d'une révélation de l'Esprit de Dieu. Cette révélation vous sera donnée si vous prenez la peine d'écouter les paroles de Jésus-Christ. Et quand je parle d'écouter, pas entendre simplement, mais écouter et mettre en pratique ce qu'il vous dit. Et alors la foi viendra aussi, car la foi vient quand on écoute la parole de Dieu. La parole de l'Évangile a touché nos cœurs, a apporté la réponse aux questions que nous nous posions sur la vie, sur la mort, sur le sens de l'existence. Elle nous a convaincus et elle nous a satisfaits. Nous n'essayons pas de défendre notre foi. Nous parlons de ce que Dieu a fait pour nous par l'Évangile. Nous sommes des témoins et nous disons « En Jésus-Christ, nous avons trouvé la vie véritable ». Des millions d'hommes ont fait cette découverte avant nous et la font aujourd'hui encore, comme nous. Le Nouveau Testament nous raconte l'histoire d'une femme de Samarie qui a découvert le Christ, qui lui révéla tout ce qu'elle avait fait. Cette femme est allée raconter sa découverte à tout son village. Plusieurs écoutèrent son témoignage et crurent aussi. Mais un peu plus tard, ils eurent l'occasion d'entendre non plus le témoignage de cette femme, mais Jésus lui-même. C'est alors qu'ils déclarèrent à celle qui leur avait parlé de Jésus, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » La même conviction leur fut donnée parce qu'ils entendirent la parole de Jésus. Voilà pourquoi, en ces moments, nous insistons. Écoutez, croyez les paroles de Jésus. Elles vous donneront aussi une conviction, une certitude intérieure qu'aucun argument humain ne pourra jamais vous donner. Vous aussi, vous pourrez dire « Je sais qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je sais qu'il est mon ami. Je sais que je ne suis pas tout seul. Je sais qu'il peut me prendre par la main pour me conduire sur ce chemin qu'il a tracé d'avance pour moi. » Alors, soyez donc comme saint Thomas jusqu'au bout. Comme lui, approchez-vous de Jésus et il s'approchera de vous. Comme lui, comprenez-le pourquoi de ses blessures. Touchez la marque des clous et son côté percé. Ne soyez plus incrédules, mes amis, mais croyez que Jésus est mort pour vous et qu'il est vivant aujourd'hui, encore et prêt à nous aider à chaque instant. Dites-lui comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu.
Dans ses doigts, des notes au ciel montent vers toi.